Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 15 de ITcast du 26 juin 2015. Arnaud et Stanislas sont en ligne aujourd'hui pour faire avec moi un petit tour de l'actualité de la quinzaine. On commence par de l'Office sur Android et quelques infos Windows 10. Et on parlera aussi d'une nouvelle tendance, les PC sous forme de stick HDMI avec une nouveauté de chez Lenovo. Quelques nouvelles ensuite sur le front d'Azure Active Directory et puis sur le front de Microsoft Intune. Cette semaine, c'était aussi à San Francisco la conférence Docker, la DockerCon, et Microsoft a eu plein d'annonces à faire à cette occasion. Enfin, pour terminer en beauté, le bêtisier des constructeurs, et vous verrez avec un bel exemple ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on vend des PC Windows. Allez, on retrouve tout de suite Arnaud et Stan pour cet épisode 15. Je suis aujourd'hui avec Stanislas et Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Avec cette canicule qui s'annonce.
Prêt à en profiter.
Donc pour ce dernier ITcast de l'année scolaire, année fiscale, etc. Juste avant les grandes vacances. On va parler de différents sujets, donc on va parler, il va y avoir du Windows 10, il va y avoir de l'actualité au niveau du cloud, de l'actualité autour de Intune, et puis de choses dont on n'a pas l'habitude encore beaucoup de parler, mais qui montent en puissance, il s'agit de Docker et les containers et tout ce genre de choses-là, puisque cette semaine a eu lieu la conférence DockerCon à San Francisco, donc on en dira deux mots à la fin. Donc déjà, Stanislas, je crois que tu vas commencer par une petite info concernant une plateforme concurrente à la nôtre. Non ?
Oui, Android. Voilà, oui, effectivement, on vient d'annoncer pour les téléphones Android Office. Donc Office était déjà disponible sur Android, mais c'était pour les tablettes Android et non pas pour les smartphones Android. Et donc le 24 juin, on a annoncé effectivement le client et les applications Android pour les téléphones Android. Donc on parle d'Office, donc ça veut dire qu'on va avoir Word, Excel et PowerPoint disponibles dès aujourd'hui dans le Google Play pour les téléphones. Donc c'était en preview il y a à peu près 5 semaines, donc là ça y est, c'est enfin arrivé en version finalisée, et donc du coup ça permet de revoir des documents, de les éditer sur un téléphone. Alors c'est assez intéressant en fait, surtout dans le contexte des phablettes qui sont quand même un petit peu plus utiles et utilisables pour ce genre de choses qu'un petit smartphone. Mais du coup voilà, ça répond à la problématique de pouvoir utiliser et éditer rapidement des documents Office sur périphérique. Donc du coup ça vient compléter ce qu'on avait déjà sur les autres plateformes concurrentes qui sont iOS. Donc iPad, iPhone, et désormais, effectivement, on a tablette Android et la nouveauté smartphone Android.
Voilà, il faut précisons que c'était déjà disponible, mais sous forme de preview, il fallait s'enregistrer dans Google Plus pour accéder à la preview, tout ça, donc c'était pas franchement très pratique, et là, c'est disponible pour tout le monde.
Exactement.
Quelques nouvelles à propos de Windows 10. Alors, c'est assez spécial ce qui s'est passé il y a à peu près une semaine, même il y a exactement une semaine, il y a eu un article sur le blog Windows écrit par Gabe Hall qui a été publié. Et il parlait des nouveautés concernant le programme Insider et notamment la nouvelle nécessité qu'on aurait à associer son compte Microsoft Account, son compte personnel Microsoft, à son abonnement, enfin sa build Insider de Windows 10, de façon à s'assurer qu'on aurait toujours les mises à jour après la RTM, enfin jusqu'à la RTM et après. Et en fait, la formulation de l'article a causé pas mal de troubles dans le public. Et pendant tout le week-end, la semaine dernière, il y a eu plein de rumeurs, notamment des rumeurs qui disaient que ça y est, Microsoft va donner gratuitement Windows 10, même à ceux qui ont des Windows piratés, ce genre de choses-là. Donc ça a fait tellement de bruit qu'il y a eu une mise à jour silencieuse le vendredi même, et puis le lundi... Il a carrément ajouté toute une partie à cet article-là pour préciser les choses un petit peu. Mais comme il faut dire également que les gens du juridique s'en mêlent, on a quand même au final un article qui n'est pas à 100% aussi clair qu'on aimerait l'avoir quand on s'intéresse à la...
Bon, du coup, concrètement, on paye ou on ne paye pas ?
Eh ben, alors, c'est jamais dit aussi clairement que ça, mais... Ce qui est dit, c'est que quand on aura un Windows 7 ou un Windows 8.1 légitime, avec une vraie licence, on aura la mise à jour gratuite.
Ce qu'on savait déjà, quoi. En fait.
Exactement. En fait, il n'a jamais été question de faire passer, de donner gratuitement un Windows aux gens qui auraient des licences piratées de Windows 7 et Windows 8.1. Des gens auraient interprété l'article en disant « Mais oui, mais si on reste dans le programme Insider, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une licence préalable légale, mais en fait, si, quoi. » Même si c'est pas dit vraiment clairement comme ça, c'est toujours assez étrange comme expression avec le juridique qui s'en mêle et tout ça. Mais en gros, ce qui sort de cet article-là, c'est que le programme Insiders va rester actif même après la version dite finale du 29 juillet. C'est-à-dire que même après le 29 juillet, on pourrait être dans un mode où régulièrement on recevra des nouvelles builds, des nouvelles versions de Windows qui évolueront régulièrement.
Une sorte de bêta-test perpétuel, quoi.
Oui.
Ce qui va bien avec l'ambiance DevOps, d'ailleurs, hein, parce qu'on est vraiment sur du produit qui bouge tout le temps.
Et si on le souhaite, on pourra, au 29 juillet, donc sortir de ce programme Insider, si on l'était, de façon à avoir une version stable, stabilisée de Windows et donc une version stable, activée pour la durée de vie de l'appareil, avec une licence qui va bien, etc. Donc voilà.
Très bien.
Autre nouvelle sur Windows 10. Cette semaine, donc même hier, le 25 juin, on a sorti donc la build 10.149 de Windows 10 mobile pour les téléphones. Donc, en fait, ce qu'apporte cette build, c'est notamment la possibilité de l'installer sans repasser par la case Windows Phone 8.1. Si vous aviez la build 10.080, c'était l'avant-dernière build de Windows 10 mobile, et que vous vouliez passer à la dernière qui était la 10.136, il fallait repasser par la case Windows Phone 8.1, donc reprendre l'outil dont j'oublie le nom d'ailleurs, le Recovery Tool ou un truc comme ça.
Oui, Recovery Tool, je l'ai utilisé cette semaine.
Voilà, pour repasser en 8.1. Ah oui, tu l'as réutilisé, mais pour une autre raison plus embêtante.
Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un écran bleu en fait sous Windows Phone. Et un écran bleu qui ressemble à celui de Windows 8, c'est-à-dire un bleu un peu clair avec un petit smiley qui fait la tête. Ça m'a rappelé la belle époque où j'ai un vieil iPod qui s'est planté pareil avec un petit bonhomme qui faisait un smiley. Cet iPod est parti malheureusement à la benne. Mais là, avant de lancer mon téléphone par terre, parce que j'étais un petit peu énervé parce que du coup il n'était pas utilisable, j'ai effectivement posé la question. Et il y a un outil qui s'appelle le Recovery Tool qui permet en fait de récupérer un téléphone Windows Phone qui est plurisettable entre guillemets ou qui part en boucle. Et l'opération télécharge en gros réinitialise complètement le téléphone en mode plus qu'usine en fait, ça retélécharge une build et ça vient le claquer sur le téléphone, donc ça fait un téléchargement quand même de 2 gigas à peu près, et puis le téléphone redémarre après en version toute propre, toute neuve, donc il redescend après toutes les mises à jour d'Enim, etc, parce que c'est pas la toute dernière build qu'on a par l'outil, hein. Et puis ensuite, on synchronise son compte Hotmail et on va dire que les applications redescendent automatiquement, le fond d'écran aussi, il y a quelques petits éléments après qu'il faut reconfigurer, mais globalement, l'opération du coup permet de retrouver un téléphone neuf alors qu'on pensait qu'il était bon à acheter. Donc l'outil, au-delà effectivement de permettre de claquer sur un téléphone de test des versions preview de Windows 10, ça permet également de remettre à neuf son téléphone qui serait parti en mode plantage infini.
Donc on avait besoin de cet outil pour repasser en Windows Phone 8.1 avant d'installer l'avant-dernière build de Windows 10 mobile. Maintenant, on n'en a plus besoin. On peut directement passer à la nouvelle 10.149, qui marche plutôt bien. Hein. Je dois dire que j'ai fait l'opération hier soir. Après un certain temps de mise à jour des applis, etc., ça marche plutôt pas mal.
Il y a des nouveautés dans cette build de Pascal, hein.
Au niveau des nouveautés, c'est pas... Un gros changement, en fait, il y a surtout un polissage de tout ce qui est interface graphique avec les animations qui sont beaucoup plus propres, qui sont fluides, etc. Ça répond mieux. Quand on appuie sur une tuile de l'écran d'accueil, ça répond plus rapidement que précédemment. Il y a Microsoft Edge, qui prend son nouveau nom, sa nouvelle identité avec sa nouvelle icône, quoi qu'on en pense. Donc on n'a plus Project Spartan, on a Microsoft Edge maintenant. Au passage, comme je ne savais pas ça, mais le fait que l'application change de nom fait qu'elle a un nouvel identifiant. Et donc tout ce qui était tout ce qu'on pouvait avoir au niveau cookies, favoris, historique, etc., tout ça passe à la trappe et on repart avec un Microsoft Edge vide et propre par rapport à ce qu'on aurait pu sauvegarder dans Spartan. Des améliorations dans Cortana, des actions rapides. Tu sais, quand on descend avec le pouce la partie haute du téléphone pour accéder à un ensemble de quick actions, là, des actions rapides, ils en ont rajouté quelques-unes, dont la possibilité, comme sur d'autres systèmes, d'utiliser la flashlight, la lampe électrique, d'utiliser la LED du flash comme une lampe électrique.
Donc il n'y a plus besoin d'avoir une application avec de la pub et de la demande de localisation juste pour avoir une lampe.
Exactement. C'est accessible presque par un bouton.
C'est plutôt pas mal.
Ils ont mis à jour OneDrive aussi. Moi qui suis un grand utilisateur de OneDrive et de l'upload automatique des photos dans OneDrive, ça y est, c'est dispo dans le nouveau OneDrive.
Ça, c'est utile, par exemple, quand tu rebootes ton téléphone et que tu dois le flasher de récupérer tes photos. Ça m'est arrivé.
Eh oui. Eh oui. Voilà. Quelques améliorations comme ça. Et ce qui fait qu'on a un téléphone maintenant, une build qui est vraiment utilisable. Hein. Donc je recommande toujours de le faire sur un deuxième téléphone, voir si vous n'en avez pas et que vous pouvez vous le permettre d'acheter un petit Lumia bas de gamme pour faire ces tests-là, parce qu'il y en a des vraiment pas chers de nos jours. Mais bientôt, enfin ça promet quelque chose de pas mal pour le moment où ça sortira, donc après Windows 10. Je ne sais pas si on a des dates de sortie d'ailleurs de Windows 10 mobile.
Je ne crois pas, mais je pense qu'on en reparlera dans des prochains ITcast.
Donc plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, dernière petite nouvelle, c'est une petite anecdote sympa concernant Windows 10. C'est une vidéo sur YouTube qu'on a sortie hier soir, il me semble, le 25, et qui s'appelle Windows 10 Hero Desktop Image, Behind the Scenes, en anglais dans le texte. Donc c'est le making of, si on veut, du futur fond d'écran officiel de Windows 10, donc qui est pas mal, hein. Enfin, c'est le logo de Windows dessiné avec un laser sur une vitre, etc., avec de la fumée, enfin un truc assez impressionnant et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une photo, c'est pas une création purement numérique, quoi. C'est une photo avec un photographe, du verre, du laser, de la fumée, etc., etc. Et on voit la vidéo, comment ça a été fait. C'est plutôt sympa. En tout cas, les designers apprécieront l'opération. Ouais, c'est plutôt sympa.
Ça serait que ça manquait, on nous le demandait. Hein. Non, je plaisante. Bon.
Donc, toujours un petit peu dans la même veine autour de Windows, tout ça, Windows, ça tombe sur des machines, et puis il y a des nouvelles races de machines qui commencent à sortir, hein. C'est assez étonnant, ces histoires-là, c'est des machines qui sont très petites, qui tiennent dans la main, et qui ont une forme de grosse clé USB avec une prise HDMI au bout, et qu'on branche sur un écran, et hop, on a un PC directement branché sur l'écran, quoi. Et là, c'est Lenovo qui s'y colle, avec un nouveau modèle qui s'appelle le Idea Center Stick 300. Donc on mettra le pointeur sur la description, etc. C'est un tout petit PC, donc je ne sais pas, il fait 15 mm d'épaisseur. Je ne sais pas quelle longueur il fait, mais quelques centimètres, quoi. Peut-être moins de 10 cm de long, avec une prise HDMI au bout. Il y a un processeur Atom à l'intérieur, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Il va être dispo très bientôt, donc il va sortir avec Windows 8.1. Avec la possibilité évidemment d'upgrader en Windows 10. Au passage, ça veut dire qu'on peut faire un upgrade sans souci avec 32 Go de stockage, donc c'est plutôt rassurant. Il y a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. En gros, on a un vrai PC dans un tout petit boîtier.
Pascal, ce type de d'ordinateur, enfin de form factor pour un PC, c'est Intel qui l'a initié en fait il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait on avait en avant-première au Tech Days et c'est Arnaud qui l'avait présenté durant la plénière IT. Hein, on avait déjà en fait l'Intel Compute Stick.
Compute Stick, ouais.
L'Intel Compute Stick, en fait, c'est Intel qui a designé ce type de form factor de carte mère et de processeur, etc., et de format, entre guillemets. Hein. Et ils le vendent déjà, en fait. Enfin, ils le vendent. Ils viennent juste de commencer à le vendre il y a un ou deux mois, je crois. Effectivement, on a des versions Windows 8.1, la version Bing. Et puis, donc, il y a 2 gigas de mémoire, 32 gigas sur le onboard. Et puis, il y a également, effectivement, du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc, il y a également un micro, un lecteur de micro-carte SD sur ce matériel-là. Donc, on peut déjà commencer à le trouver, effectivement. Donc, tu parlais de clé USB, c'est quand même plutôt une clé HDMI, parce qu'en fait, on le branche de l'HDMI et on va l'alimenter après avec un petit chargeur à côté. Et effectivement, c'est bien pour étendre une télé avec un vrai OS. C'est plutôt assez cool. Donc au passage, donc Intel, qui est ceux qui ont fait le design de ce type de périphérique, probablement doit licencier, vendre l'usage ou les gabarits pour faire ce type d'équipement. Et donc là, tu nous as annoncé qu'effectivement Lenovo en avait un qui arrivait avec Windows 10. Donc celui d'Intel est déjà disponible.
Windows 8.1.
Donc alors Intel le vend déjà en version 8.1. Et on a également Arcos en France qui a annoncé ce type d'équipement, pareil. Donc ils sont visiblement basés sur le design en fait d'Intel, parce que c'est on avait à peu près sur le même gabarit, hein, donc c'est sur les tailles, tu vois, c'est 60 grammes la clé, 14 mm d'épaisseur, à peu près 11 cm de longueur, et à peu près un petit peu moins de 4 cm de largeur.
Donc au bout, il y a un connecteur HDMI.
Ouais, exactement.
Sur le côté, on a une au niveau connectique, on a quoi? On a une prise USB pour l'alimentation.
On a un petit micro USB, ouais, pour la partie alimentation. On a un USB pour brancher des périphériques, en fait. Enfin, un périphérique, en l'occurrence. En général, un hub, si on met plus de choses. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que ce truc-là, le but, c'est de le connecter avec du Bluetooth, un souris Bluetooth, clavier Bluetooth. Et puis, comme il y a du Wi-Fi en réseau, c'est pas non plus de brancher plein de filasses derrière la télé, donc c'est de limiter vraiment. Donc il y a généralement effectivement le connecteur SD pour rajouter un petit peu de stockage, mais le reste c'est vraiment c'est fait pour de la navigation web, la bureautique légère, du multimédia, donc des choses comme Kodi, ça va très bien dessus par exemple, Kodi qui est le nouveau nom d'XBMC. Donc voilà, donc Arcos, le stick d'Arcos en fait, s'appelle le PC stick d'Arcos, voilà, il est annoncé à légèrement moins de 100 euros, 99 euros, on va dire 100 euros.
Donc, ce qui est extraordinaire.
Bien entendu, ça marchera effectivement avec du Windows 10, parce que c'est les mêmes specs aujourd'hui qu'un Windows 8.1.
Donc, au final, pour moins de 100 euros, on a un PC complet qui a plus de connectique qu'un MacBook. C'est juste pour la blague.
Je ne commenterai pas cette. ta vision de la chose.
Okay.
C'est un moyen d'avoir plus de PC à la maison sans que ta femme s'en aperçoive.
Aussi.
Donc on a fait le tour des PC, on a fait le tour donc des nouveautés sur Office côté Android, on a fait un petit peu le tour des nouveautés sur Windows 10, Windows Mobile 10. Non, Windows Mobile 10, on a appuyé un petit peu de Windows 10, un petit peu le tour du matériel qui va aller avec Windows 10, alors quoi de neuf autrement?
Ah bah, je crois qu'il y a des nouvelles du côté du cloud.
Pas mal de nouvelles côté du cloud. Alors, quelques petites choses pour l'intégration des applications dans Azure Active Directory, parce que c'est essentiellement de ça qu'on va vous parler dans les prochaines minutes, de Azure Active Directory, avec la possibilité de faire du « bring your own app », entre guillemets. Donc, tu peux intégrer facilement tes applications en utilisant du SAML. Donc, c'est nouveau, ça permet de mieux s'intégrer dans Azure AD. Quelques petites choses qui sont intéressantes, on en parle d'ores et déjà dans pas mal d'événements qu'on a pu faire ces derniers temps. L'intégration entre le client Windows 10 et Azure Active Directory. Il y a un certain nombre de white papers qui ont été publiés par un certain nombre de collègues. qui sont disponibles sur le centre de téléchargement. Tu mettras le lien, évidemment, Pascal, avec le podcast. Mais ça discute de Azure AD et Windows 10 meilleurs ensemble. Ça, c'est le premier white paper. Et autre white paper, c'est l'authentification unique, le single sign-on Azure AD / Office 365 avec ADFS dans Windows Server 2012 en utilisant Azure AD Connect. Azure AD Connect qui est live maintenant, ça y est, on l'a fini, et qui est ce produit qui nous permet de synchroniser l'identité on-prem avec Azure AD. Donc ça, c'est un point important sur Azure AD cette semaine. Et puis tant qu'on a parlé d'Azure AD, on a également été nommé il y a quelques jours dans le Magic Quadrant du Gartner comme leader et visionnaire. Donc ça veut dire que il y a une certaine reconnaissance par les analystes du Gartner, en tout cas, de notre vision de l'identity as a service. Donc pour un petit peu rendre public ce rapport, ce qui n'est pas toujours le cas, normalement il faut payer pour l'avoir, eh bien on a arrangé un petit deal avec Gartner pour vous permettre de pareil télécharger et puis dire ce qu'il y a dans le white paper. Donc pareil, Pascal nous mettra le lien, le Gartner Magic Quadrant pour Azure AD. Et puis un certain nombre d'améliorations également sur la plateforme Azure. Alors je vous parlais de Azure AD Connect qui est Generally Available, ce qu'on appelle GA, c'est-à-dire que ça y est, on a fini. Et puis Connect Health qui permet de monitorer l'état de santé d'un environnement Azure AD un petit peu en mode hybride. Il y a pas mal d'autres petites choses qui concernent notamment SQL Server, comme la preview de Azure SQL Data Warehouse. Donc, pour ceux qui font du data warehouse on-prem, la possibilité de pouvoir faire ça directement dans Azure également, comme un service. Et puis, un certain nombre de choses qui concernent Intune. Et là, je laisserai naturellement Pascal faire la transition vers sa technologie favorite, Microsoft Intune. Pardon.
Une de mes technologies cloud favorites, qui est Intune. Donc notre système de MDM, de Mobile Device Management, de Mobile Application Management en mode SaaS. Et donc à propos de Mobile Application Management, une nouveauté récente, c'est qu'on a annoncé donc la disponibilité de l'accès conditionnel et puis du Mobile Application Management, donc de l'application applicative, du management applicatif, pour les versions de Outlook pour iOS et Android. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'application Outlook qu'on va pouvoir installer sur ces périphériques-là, on va pouvoir la gérer comme on pouvait gérer déjà certaines autres applications, notamment au niveau du contrôle du copier-coller vers les applications qui sont non gérées, ce genre de choses-là. Donc une gestion applicative, donc on va pouvoir dire cette application Outlook, je la mets dans l'ensemble des applications qui sont gérées par l'entreprise. C'est une application qui va pouvoir gérer des données de l'entreprise, et donc à ce titre, elle va être contrôlée, gérée, elle ne pourra pas communiquer avec n'importe quelle application sous forme de copier-coller, etc., sur le téléphone. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça complète un petit peu l'ensemble des applications qu'on sait gérer depuis Intune sur nos périphériques. Donc MAM et Conditional Access, accès conditionnel. Accès conditionnel, ça veut dire quoi? J'ai pas précisé. Oui, ça veut dire qu'on va pouvoir dire ben, je peux installer et utiliser cette application uniquement si mon périphérique a rejoint le MDM, donc le Intune de l'entreprise. Ensuite, il y a un autre article qui est sorti donc il y a trois jours sur des nouvelles fonctionnalités de Intune. Il y a principalement la reprise du fait que il y a cette gestion applicative de différentes applications, dont Outlook pour iOS et Android. Il y a le support de la multi-identité, donc d'identité multiple, pour certaines applications comme Word, PowerPoint, OneDrive, sur les périphériques iOS. On va pouvoir dire donc j'ai plusieurs identités. J'ai une identité personnelle avec mon compte Microsoft Account personnel, et puis j'ai une identité professionnelle avec mon compte Azure AD ou de l'entreprise avec Fédération, etc. etc. Dans ce cadre-là, je vais avoir un traitement différent des données, qu'elles soient personnelles ou professionnelle. Je vais avoir un chiffrement, par exemple, pour les données professionnelles. Je vais avoir une isolation entre les deux. Par exemple, je ne pourrais pas faire de copier-coller entre mes documents, de mes documents professionnels vers mes documents personnels, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est une chose qu'on attendait depuis qu'on fait de l'application management et qui arrive maintenant avec, avec ces applications-là. Autre nouveauté également dans le Company Portal pour iOS, cette fois-ci, c'est la possibilité d'avoir une notification quand une application qu'on a déployée par le Company Portal a une mise à jour dans l'App Store. Donc là, on va pouvoir être notifié directement dans le Company Portal, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une mise à jour de quelque chose qu'on utilisait depuis longtemps, qui est l'antivirus, donc le Endpoint Protection pour les PC sur lesquels on a installé l'ancien agent Intune. Donc c'est pas le Intune en mode MDM, mais c'est le Intune en mode gestion de PC classique comme on le faisait auparavant. Donc l'antivirus a été mis à jour. Et puis voilà, des petites nouveautés sur les remontées d'alerte au niveau des virus qu'on aurait pu trouver sur ces machines-là. Autre info à propos d'Intune qui est intéressante, c'est que on a déjà parlé il y a deux semaines avec Stanislas des systèmes de user voice qui vous permettent de remonter des remarques, des suggestions au niveau de nos produits. Donc ça y est, il y a un user voice qui a été ouvert pour Intune. Et donc vous pouvez vous exprimer sur ce que vous voudriez voir améliorer dans Intune. Donc si vous avez des remarques sur le portail d'Intune, par exemple, n'hésitez pas. Une dernière chose au niveau d'Intune, on a publié cette semaine, donc même hier, un document qui s'appelle le End User Enrollment Guide pour Intune. Donc c'est quoi ce guide-là ? C'est un petit guide qui tient sur deux pages, qui est fourni sous différents formats de façon à ce que vous puissiez l'imprimer de façon en haute qualité. Donc il y a des formats Adobe, format PDF, format Word, etc. Vous avez les images en haute définition également au format Adobe Illustrator si vous voulez. Et ce guide, c'est un guide que vous pouvez donner à vos utilisateurs si vous mettez en œuvre Intune dans une optique de scénario de type Bring Your Own Device. Et ça va pouvoir expliquer à vos utilisateurs l'intérêt qu'ils ont déjà à s'enrôler dans Intune, à enrôler leur périphérique dans Intune, et puis comment le faire. Donc de façon très simple, avec des schémas vraiment très clairs, c'est vraiment bien fait. Pour l'instant, c'est en anglais, je ne sais pas si ça sera traduit, mais en tout cas, vous avez le fichier Word inclus dedans, donc si vous voulez le traduire avant qu'il soit traduit par Microsoft, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Donc je mettrai le pointeur également pour le télécharger, c'est vraiment... vraiment bien fait pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent s'enrôler eux-mêmes dans le système de MDM. Donc voilà ce qu'il y avait comme info au niveau d'Intune cette semaine. Comme je le disais au départ, il y a eu un événement en début de semaine, le 22 et 23 juin à San Francisco, la DockerCon, la conférence Docker. C'est un petit peu à la mode comme sujet, les containers. Et on a pas mal de choses qui ont été annoncées par Microsoft à l'occasion de cette conférence. Hein. Microsoft a participé à la keynote d'ouverture avec Mark Russinovich. Enfin, il y a eu pas mal d'annonces et de démonstrations qui ont été faites. J'en ai noté 5 qui sont intéressantes d'annonces qui ont été faites. Donc la première, et Mark Russinovich l'a démontré en plénière, c'est qu'on a montré pour la première fois une application dans un container multiplateforme. Donc ça veut dire qu'on arrive maintenant à faire des applications en container, mais qui fonctionnent sur des environnements multiplateformes, à la fois sur Windows Server et Linux. Donc l'idée, c'est également de pouvoir utiliser des choses comme Docker Compose et Docker Swarm. Donc Docker Compose, c'est la possibilité de proposer des applications multi-containers. Une application peut être composée de plusieurs composants séparés, et si on met chaque composant dans un container séparé, on peut avec Docker Compose proposer des applications donc multi-containers. Et quand on va prendre cette application-là et la déployer vers un environnement de containers, ça va en fait créer tous les containers associés avec les liens entre eux, les communications qui se font automatiquement, etc. Puis la deuxième chose également, c'est Docker Swarm. Docker Swarm, c'est la capacité d'avoir des clusters de machines qui exécutent des containers Docker. Donc de façon à avoir une extension de type scale out, c'est ça, en étendant la capacité d'exécution de type un peu comme un cluster classique.
Cool.
Et tout ça en cross-platform Windows et Linux.
Impressionnant, ça avance vite, hein, quand on pense qu'il y a juste un an, c'est notre début de partenariat avec Docker, donc c'est assez cool de voir tout ça. Dans la concrétisation réelle de tout ça aussi, c'est que maintenant, si tu vas sur le portail Azure, le portal.azure.com, le nouveau, celui avec des carrés multicolores et qui glisse de tous les côtés, on a une section qui s'appelle Container Apps, et tu peux là directement déployer des applications en mode container, en mode Docker, donc sans passer par l'overhead qu'on avait jusqu'à présent, qui était de déployer un core OS pour ensuite déployer tes containers.
Donc là, exactement.
Je crois qu'on pourrait appeler ça du... Je sais pas si c'est du PaaS ou du IaaS. Hein. Tu viens avec ta propre application, donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est du PaaS ou un truc comme ça. Je sais pas.
Ouais, c'est du PaaS.
Mmh. On va dire ça. Hein.
Ouais.
Donc on vient, on pose son application dans le container app, et puis ça, c'est cool.
Donc ça, c'est c'était une des infos également. Et puis il y a une autre chose dans le marketplace d'Azure. C'est qu'en plus d'avoir cette rubrique Container Apps, c'est qu'on propose aussi une machine virtuelle de type Docker Trusted Registry pour que vous puissiez installer donc dans Azure une machine virtuelle qui va héberger votre propre registre de container Docker, votre propre repository, si on veut, de container Docker privé. Donc c'est également une deuxième chose qui est intéressante au niveau d'Azure.
Mm-hmm.
Mm. Dans ce qu'on propose également dans Azure, c'est également la possibilité de déployer automatiquement à partir de modèles d'images, des applications multi-containers, donc des applications de type Docker Compose.
On reviendra beaucoup sur les containers dans l'année, hein, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est en train de monter doucement. Pour l'instant, on va dire qu'on est plus dans l'état de Docker à l'époque où, comme en 2002, où la virtualisation arrivait, et les gens commencent à regarder ça un petit peu de loin en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc et comment l'appréhender. Je pense que les containers, ça va prendre encore quelques années avant de vraiment que ce soit banalisé, entre guillemets.
Exactement. La troisième nouvelle à la DockerCon, là, c'est qu'on a annoncé la possibilité depuis Visual Studio Online de construire, de tester, de déployer des applications basées sur des containers également, qui vont utiliser Docker Compose aussi. Et pareil, la possibilité de déployer ces containers vers des trusted registries privées. Pareil, même principe que l'on a maintenant dans Azure. Donc tout ça depuis Visual Studio Online.
Cool. Pareil, Marc Krisinovich, très actif hein, ces temps-ci, puisqu'il y avait, je crois que c'était une petite dizaine de jours, le ONS 2015. Alors ONS, ça veut dire Open Networking Summit, hein. Et en fait, ça discutait de networking de tous les côtés, comme vous en doutez, et puis forcément de SDN. Et qui dit SDN, ben on a construit un plutôt gros de SDN, hein, de Software Defined Networking avec Azure. Donc en fait, Marc Rusinovich détaillait dans cette keynote, environ une quarantaine de minutes, notre histoire de ce qu'on a fait à propos du SDN dans Azure avec les contrôleurs SDN, la régionalisation de ces contrôleurs SDN, un petit peu de quelques éléments concernant l'échelle de ces SDN qui est absolument hallucinant. Et puis détailler qu'effectivement on utilisait un service d'Azure qui s'appelle Service Fabric et qui est en fait mis à disposition ces jours-ci en version preview pour les clients d'Azure. Donc c'est assez intéressant comme architecture. Il détaille en fait un certain nombre d'éléments de l'implémentation d'Azure, du software load balancing, etc. Et donc ça donne quelques éléments en plus sur ce qui va naturellement arriver dans Windows Server 2016 aussi. Donc ce qu'on a fait dans le cloud public arrive dans le cloud privé avec Server 2016. Donc, on vous mettra le lien, pareil, en référence de cette conférence Open Networking Summit, où Marc a détaillé un peu tout ça.
L'ONS 2015.
Yes. Alors, c'est l'été, hein, finissons sur une note un petit peu légère avec le bêtisier des intégrateurs. Hein. On a déjà connu cette année quelques petits bêtisiers. Hein. On pense à Lenovo, bien sûr, avec ce qui a été catégorisé comme un spyware, c'est ça, si je me trompe pas.
Tout à fait, oui.
Et puis là, bah, le bêtisier pour finir l'année en beauté, c'est avec Samsung qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture en désactivant avec un petit exécutable Windows Update sur les machines, en fait, sur ces machines avec dans le, comment dire ça pour être poli, le crapware habituel qu'installe tout fournisseur. Donc chez Samsung, ça s'appelle SW Update, qui permet même de mettre à jour les drivers des machines. Et qui en gros là en fait se lance un petit exécutable qui s'appelle disablewindowsupdate.exe. Donc il y a un petit MVP qui a fait un petit peu de recherche parce que ça l'intriguait un petit peu. Il a vu qu'effectivement ce truc là il allait désactiver Windows Update pour d'obscures raisons. Donc vous en doutez que ça nous a un petit peu embêté vu qu'on fait pas mal d'efforts en matière de sécurité, et si on commence à voir tous les OEM qui font ce genre de choses, on va être un petit peu embêté quand même, hein.
C'est ce qu'on appelle dans le jargon une belle bande de couillons, en fait. Désactiver en loose entre guillemets un service aussi important que la mise à jour, faut quand même être sacrément dérangé du cerveau.
Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on se demande comment on peut être aussi con. Hein.
Alors, parfois, c'est tellement bien résumé en quelques mots comme ça.
En plus, c'est totalement bizarre parce que je veux dire, installer le logiciel SW Update, c'est l'utilitaire qui permet de mettre les drivers de Samsung. On sait très bien que 6 mois après que un Samsung a été shippé, ils ne mettent plus à jour les drivers, donc c'est complètement inutile, quoi.
Surtout que un logiciel qui met à jour des drivers constructeurs et qui est un logiciel fait par le constructeur, en tant que tel, ça n'a rien de déconnant parce que quasiment tous les constructeurs ont ça depuis des années. C'est juste que tout d'un coup, qu'ils se prennent en se disant eh tiens, et si en plus on désactivait le Microsoft Update à côté, qui basiquement n'a pas grand chose à voir, c'est là où l'idiotie prend toute sa valeur, en fait.
À mon avis, il va y avoir une incompatibilité avec leur logiciel ou un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, il y a des investigations qui sont en cours. Et puis, comme vous doutez, c'est assez peu confortable pour tout le monde, mais encore moins pour eux.
C'est un interminable problème. Le problème des crapwares sur les PC neufs qu'on achète, les PC grand public neufs, hein, c'est vraiment dramatique. Quelque chose de dramatique.
C'est quand même un problème pour les crapwares qui existent, en fait. C'est que c'est une source de revenus complémentaires pour les constructeurs, c'est-à-dire que quand ils vont vous intégrer, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais il ne faut pas le généraliser, mais vous intégrez un antivirus de la marque XY ou Z, plus un navigateur de la marque XY ou Z, plus un n'importe quel optimiseur à 2 balles. Derrière, en fait, c'est simplement parce que chaque éditeur, en fait, qui va réussir à mettre son logiciel en version d'évaluation, parce que la plupart du temps, c'est des versions d'évaluation 30 jours, et après, il faut s'acheter la licence, eh bien, en fait, reverse de l'argent au constructeur. Donc, c'est un moyen de faire un complément de revenus. Hein. Mais quelque part, c'est aussi idiot ou aussi compréhensible que Adobe, par exemple, qui fait des mises à jour d'Acrobat Reader et qui, au sein de sa mise à jour, te propose d'installer Chrome ou la barre Chrome à l'intérieur.
Encore en 2015, les gens font encore ça.
Ouais. Donc, c'est vrai que les administrateurs d'entreprises, etc., ils ont, je pense, autre chose à faire que s'amuser à vérifier que ça n'installe pas un deuxième truc en plus de la mise à jour, quoi. Quant aux utilisateurs, en fait, de base, en fait, le truc, il est coché, quoi. Mais chaque fois qu'il y a une mise à jour d'Adobe Reader, ce qui est pas quotidien, mais qui est assez récurrent, chaque fois, ils essaient de nous refourguer une barre de recherche ou du Chrome derrière, quoi. Donc, c'est un petit peu lourd, en fait.
Donc, vous l'avez compris, hein, pour cet été, si vous voulez un PC qui soit propre et qui en même temps fasse tablette, Surface Pro 3, c'est ça?
Bah et oui, même Surface pas, 3, ou Surface 3 maison, qui est moins cher et plus petite.
Encore plus léger et plus petit, donc au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas tout cet attirail en plus avec Surface.
Sans compter qu'à ce sujet-là, il y a une info que j'ai trouvée intéressante il y a peu de temps, c'est peut-être il y a une semaine ou deux, à propos de la Ask Toolbar, cette fameuse toolbar de recherche qui est installée en tant comme crapware accompagnant des logiciels, mais de très grande renommée. Alors, je voudrais pas dire de nom de fournisseur d'éditeur de logiciels qui inclut cette toolbar avec leur, oui, il y en a beaucoup, leurs applis, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui. Mais si vous en avez, si vous êtes sûr de un, on peut le dire, hein. Non ?
J'ai plus en tête, moi.
Non, je ne voudrais pas me mouiller.
Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans l'antivirus Microsoft, maintenant, on considère enfin cette Ask Toolbar comme un malware. Donc, on va la détecter et la virer. Donc, c'est plutôt sympa, quand même.
Il était temps, parce que ça date quand même de 96, ce truc-là, les premières barres.
96 Waouh.
Ah bah si, tiens, la Ask Toolbar, si, il y avait un vendeur qui l'intégrait, je ne sais plus s'ils le font toujours, parce que ça fait longtemps que je n'installe plus ce plugin, c'était Java qui le mettait avec ses mises à jour. C'est-à-dire quand on installait un Java ou une mise à jour, hop, il te proposait la barre Ask. RealPlayer aussi le faisait. Je ne sais pas s'il existe encore, RealPlayer.
Ah, RealPlayer, je sais pas, mais Oracle existe toujours. Donc.
Mais c'est cool, effectivement, qu'on se débarrasse de ce genre de cochonneries. Oui, effectivement, Java, je sais pas s'ils le font toujours. Hein. S'ils le mettaient, parce que effectivement, quand on faisait des mises à jour Java, en fait, ils proposaient tiens, je vais t'installer la barre d'outils Ask pour eux.
Ouais. Donc voilà, très mauvaise pratique à bannir. Moi, on a fait le tour, hein, je pense, des infos.
Bah oui, c'est l'été, il faut aller profiter de la plage maintenant.
De la semaine. Maintenant, voilà, on va vous libérer. Vous pouvez reprendre une activité normale, hein, selon l'expression consacrée.
Et puis, pour ceux qui restent à Paris, hein, qui n'ont pas la chance de partir, on a un sujet palpitant qui aura lieu le 7 juillet. Au bureau, à Issy-les-Moulineaux, et qui est un Azure Camp sur lequel il y aura deux volets. Il y a une partie de développeurs, ce qui est très peu intéressant, vous l'avez compris, hein, par rapport à la partie IT Pro qui est passionnante et qui parlera de Identity as a Service, on parlera d'Azure AD naturellement, et puis on parlera de autre sujet palpitant devant l'éternel, le plan de reprise d'activité et les sauvegardes. Donc tout ce que permet de faire Azure comme PRA de type ressusciter une VM de ton data center qui était sur Hyper-V et la faire vivre dans Azure, utiliser Azure comme plan B, comme plan de reprise d'activité. La même chose pour des machines virtuelles VMware et pour des serveurs physiques. Donc on va détailler toutes ces options, histoire d'un petit peu faire le point de à quel point Azure peut nous aider dans des situations un petit peu délicates.
Et on fera ça bien entendu dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Et il y aura pas mal de démonstrations. Et venez avec vos questions, parce qu'il y aura toujours la traditionnelle pause caféine glucide qui permettra effectivement de discuter tous ensemble de ces sujets. En tout cas, on a bien travaillé ces points-là. Et donc, du coup, vous pouvez venir avec toutes vos interrogations. On espère avoir le maximum de réponses sur le sujet avec Arnaud et Pascal.
7 juillet, ici les Moulineaux. Pascal, vous mettez les liens en référence. Viendez tous, ce sera cool.
Voilà.
Sinon, bonnes vacances. Et puis, à bientôt.
Et ben, on se retrouve très bientôt. Ouais. Merci à tous les deux et à très bientôt.
Au revoir, Pascal. Au revoir à tous.
Salut.